petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Dans quel état es-tu, toi, petite oreille buissonnière, quand le dimanche soir après le dîner, on te somme de vite te laver les dents et de vite te mettre en pyjama et de vite boucler ton cartable en vérifiant vite que tu as mis tes devoirs dedans et la calculatrice et les crayons de couleur et la règle et l'équerre, le compas, le classeur et la table de 3. Bien sûr, je sais bien que toi, en cachette, tu rajoutes tes cailloux, tes dessins, tes ratures et tes copains, tes caramels et tes ficelles, tes carambars et tes traquenards. Mais dis-moi donc, en pyjama ce dimanche soir, est-ce l'enthousiasme ou le désespoir? Le bonheur d'être à demain ou le rêve d'un réveil bien malin qui oublie de sonner le matin? Bref, toi, petit écolier buissonnier ou bien réglé, à quoi ressemble ta maîtresse, ton bureau, ton encrier, ta cour de récré? Si tu n'as pas compris que l'on parle d'école aujourd'hui, c'est que définitivement les vacances sont déjà sur ton cahier du jour. Mais sois un brin curieux, car aujourd'hui, la question du jour à recopier, soulignée de ta plus belle écriture en bleu, en vert, en rose ou en violet, est la suivante. Quelle école pour devenir soi et apprendre à vivre ensemble? Ce sont Emmanuel Pain et Pierre Lacroix, tous les deux enseignants en école coopérative Freinet, qui seront à nos côtés pour nous aider à chercher.
Au départ, quand tu es en maternelle, l'école... c'est fait pour apprendre à vivre avec les autres. Et après, quand on tombe dans les CE et tout, dans les CM, et ben, c'est fait pour travailler.
Bah, pour moi, une école, c'est t'apprends déjà et tu peux faire du sport. Tu fais du sport alors qu'en dehors de l'école, tu peux ne pas en faire.
Bah, l'école, c'est un moment aussi où on est sans nos parents. On est avec un adulte, un maître ou une maîtresse, les copains, les copines, donc les élèves.
Moi, je pense pas que l'école, c'est fait que pour travailler. À la base, c'est sûr, c'est fait pour apprendre, mais je pense que c'est fait aussi pour se faire des amis, vivre ensemble, pas être, pour apprendre à être respecté, à respecter les autres.
Une école le plus idéal possible, c'est, ça serait une école où on joue avec notre idée et l'idée aussi des autres.
Pour moi, l'école parfaite dans mon imaginaire, ce serait une école où on ferait que des arts plastiques et avec tout le monde.
C'est une école où il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont tous écologiques.
C'est écologique, oui, mais aussi, il faut que, pour moi, dans mon imaginaire, il faut que c'est de l'amitié.
Parce que si mon école elle était encore plus parfaite, qu'il y avait par exemple une piscine dans la cour de récré, espèce de parc d'attractions ou quoi, et ben il y aurait quelqu'un qui dit « moi je réserve ci, moi je réserve ça », donc après on serait pas solidaire, donc ce serait pas une très bonne école.
Moi je pense que tout le monde voudrait qu'une école soit parfaite, super sensationnelle et tout, mais je pense que c'est pas franchement bien d'avoir une école parfaite, parce que s'il n'y a pas de problème à régler, il n'y a rien à faire pour l'améliorer, et ben on s'ennuie, c'est en aidant quelqu'un ou quelque chose à devenir mieux qu'on grandit nous-mêmes.
Puis le plus souvent, pour devenir soi, c'est soit... il y a quelque chose qui se passe d'assez grave. Par exemple, on va à l'hôpital, on s'est cassé quelque chose, ou voilà, ça va pas. Et ben, ça nous fait grandir dans nous-mêmes. Donc voilà, mais c'est peut-être pas l'école. Il y a aucune école pour nous faire grandir dans soi-même. Mais l'école pour vivre ensemble, c'est l'école de tous les jours.
L'important, c'est pas qu'elle soit bien ou qu'elle soit pas bien, que les maîtres et les maîtresses soient gentils ou qu'ils soient sévères. C'est du moment qu'on est bien dans une école, qu'on se sent bien et qu'on sent aussi qu'on progresse, et ben, je pense qu'on peut dire que notre école, on n'a aucune raison de la changer et il n'y a aucune raison qu'elle soit parfaite.
Pour moi, l'école aussi, c'est pour varier les plaisirs parce que, par exemple, il y a deux matières qu'on fait beaucoup, le français et les maths. Mais on peut, nous, par exemple, avec notre maîtresse, on varie les plaisirs, on fait de la philo La philo radio, des arts visuels souvent, de l'anglais, des chants. Tous les jours, on fait pas que du français et des maths.
Par exemple, un jour dans la semaine, on n'est qu'avec le professeur. Et comme ça, on apprend bien. Et les autres jours, on fait un jour de danse. Comme ça, ça nous apprend un peu à vivre ensemble.
Dans une école, y a des enseignants. Et souvent, certains enseignants, comme notre maîtresse, ils ont une passion. Et après, ils nous la transmettent. Et ça nous donne envie d'apprendre plus.
Il y a des profs ou des maîtresses qui, à chaque fois, ont des programmes dans une journée. Et des fois, ils ajoutent des responsabilités aux enfants. Et je trouve que ça, c'est bien parce que ça nous aide à plus réfléchir, à avoir confiance avec tout le monde. Et voilà.
Habituellement, quand tu es dans une classe, t'as pas tellement de responsabilités. T'es toujours assis et tout, tu travailles. Et tandis que là, au moins, tu peux gagner la confiance des autres. Donc, c'est pas mal.
Nous, dans notre classe, on a un système de ceinture. Et c'est pas pour dire « Oh, moi, je suis plus haut que toi, j'ai ça, j'ai ci ». C'est pour nous respecter les uns les autres. Et les responsabilités, c'est pour plus avoir confiance en nous. Et voilà.
On a des métiers. Par exemple, comme avocat, c'est lui qui règle un petit peu les problèmes, qui aide à régler les problèmes.
C'est sûr que... Pour certaines responsabilités, il faut vraiment avoir confiance en nous parce que quand on est par exemple jardinier, animalier, infirmier, quand on a un animal dans la classe, faut s'en occuper, faut pas oublier, s'il y a des plantes, faut arroser les plantes, faut pas oublier d'arroser les plantes. Donc c'est vrai qu'il y a certaines responsabilités qu'il faut avoir vraiment confiance en nous pour se dire que si la maîtresse elle nous a donné cette responsabilité, c'est peut-être parce qu'on peut la faire, mais que nous en nous-mêmes, vu qu'on l'a jamais fait, on croit qu'on peut pas,
parce qu'on croit qu'à l'école on apprend vraiment des choses genre 1 plus 1 égale 2 et des trucs un peu plus compliqués aussi, mais donc voilà, et on croit qu'on apprend que ça, mais on apprend aussi à vivre avec les autres, à avoir la confiance des autres et apprendre à faire confiance aux autres. Donc je trouve qu'une école parfaite, ça servirait vraiment à rien.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, il y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, est lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Alors c'est quand qu'on va où, demande Renaud. Aujourd'hui, pas de dictée, pas de contrôle, pas de récitation ni de dissertation, mais une petite réflexion à vos côtés, Emmanuel Pain et Pierre Lacroix, enseignants, pour s'interroger sur une école qui serait capable de nous apprendre à devenir soi, tout en apprenant à vivre avec les autres.
Moi j'ai été surpris, ces enfants, ils parlent d'école idéale, mais ils reviennent beaucoup sur la réalité. Ils sont contents de ce qu'ils arrivent à faire dans leur école, et de tout ce qu'ils arrivent à exprimer, de tout ce qu'ils arrivent à construire, et de toutes les compétences qu'ils arrivent à développer.
Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que l'école ?
C'est une micro-société qui doit avoir une existence propre, qui doit construire ses règles, et où chaque enfant, chaque individu doit pouvoir, tout en vivant dans un groupe, tout en respectant la vie du groupe, se construire lui-même et se développer du mieux possible.
Donc c'est un lieu d'épanouissement.
Ça doit...
Finalement, d'après le grec qui nous dirait que l'école viendrait de scoler loisir, l'école serait dès son origine loin d'être un lieu de travail, au sens latin du terme, de travail-torture.
Alors, oui... Parce que quand on parle de travail à l'école, pour les enfants, le travail doit être épanouissement, ne doit pas être contrainte. Tout ce qu'on essaie de faire à l'école, enfin, il me semble dans nos classes, c'est de rendre ce travail agréable, d'être satisfait de ce qu'on arrive à obtenir à la fin. Les efforts qu'on aura faits, ils seront justifiés par l'aboutissement. Donc le travail libérateur et pas le travail contrainte, oui, bien sûr.
Oui, je pense qu'on tend vers ça. Et c'est vrai que à partir du moment où l'enfant il comprend pourquoi il fait ce travail et dans quel but, effectivement, on n'est plus dans la contrainte. Donc c'est la notion de plaisir aussi qui rentre en jeu. Et tout est plus facile, on va dire, à mettre en place.
Ce qui ne signifie pas non plus qu'il n'y ait pas d'efforts à fournir.
Bien sûr. Mais les efforts qu'on produit dans un climat de classe serein, si l'ambiance de travail est bonne, eh ben on les fait avec plaisir. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Alors là, vous me parlez du travail individuel, enfin qui permettrait l'épanouissement de chacun. Mais dans la question, il y a bien aussi une école qui nous permet de devenir soi, mais d'apprendre à vivre ensemble. Alors quel est ce jeu, cette dialectique entre le moi et le nous, entre le moi et les autres?
Là, on parlait de soi, de l'épanouissement de soi, mais en fait, à l'école, on apprend aussi à mettre en place toutes les règles qui vont faire qu'on va pouvoir vivre ensemble, vivre en groupe, bien vivre ensemble. Toutes ces règles que les enfants mettent en place eux-mêmes, quoi, les règles de vie, les règles de travail, qui sont des règles démocratiques.
Juste un petit mot quand même pour ajouter sur les règles. Ne pas donner l'impression que les règles se construisent comme ça dans le vide. Il y a quand même des règles qu'on peut dire non négociables. Je donne deux exemples. À l'école, on n'a pas le droit d'empêcher les autres de travailler. Ou on doit, dans les toilettes, eh ben, il est interdit, interdit, je dis bien, d'aller embêter les autres qui sont dans les toilettes. Ça, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas discuter, qui sont non négociables.
Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, c'est un peu ce que vous
disait,
voulez dire.
Oui, et ce que disait Emmanuel, c'est tout le reste, c'est-à-dire toutes ces règles qui vont permettre à toute cette société de vivre ensemble et qu'on peut moduler l'utilisation du terrain de foot, l'utilisation des espaces collectifs, la façon de se déplacer dans l'école, tout ce qui touche au collectif et qui, justement, se discute pour améliorer la vie collective.
Donc finalement, c'est plus un travail sur la nuance, sur la nuance qu'apportent les enfants dans cette construction des règles.
Ça va plus loin que la nuance, puisque à certains moments, vous avez des enfants qui vont proposer des choses auxquelles les enseignants n'auront pas pensé. Et tout le rôle de l'enseignant, justement, eh bien, c'est bien de laisser la place à tout ce qui va émerger donc, des enfants qui sont considérés à ce moment-là comme des individus responsables, capables de produire des propositions intéressantes et qui peuvent être après acceptées par tous.
Donc le rôle de l'enseignant, là, c'est pas forcément d'apporter une autorité de fait arbitraire, c'est quelque part un rôle de médiation.
C'est un facilitateur à un moment de la vie collective.
Alors concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'une démarche pédagogique qui permettrait à l'enfant à la fois d'y trouver son compte en termes d'épanouissement personnel et à la fois d'apprendre à vivre avec les autres ? Parce que c'est quand même pas une donnée d'avance de vivre avec les autres, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident.
Comment faire ?
Parce que c'est vrai qu'il faut que l'enfant y trouve aussi sa place dans le groupe, une place positive, puisqu'en fait... pour s'épanouir, lui, il y a l'estime qu'il a de lui-même, mais aussi est-ce qu'il est reconnu dans le groupe, la confiance qu'il a dans le groupe, la reconnaissance, etc. Et c'est vrai que, pour donner un exemple, moi je parlerai, alors les premiers outils qu'on pourrait parler, c'est tout ce qui régule la vie de la classe, qui sont très importants, puisqu'ils permettent justement de...
Alors lesquels ?
On peut parler par exemple de réunions de copés ou de conseils de délégués, qui sont en fait des instances qui se répètent régulièrement dans la classe et qui permettent de... non seulement de réguler de la vie de la classe, mais aussi de parler des projets de classe qui sont primordiaux en fait dans la classe, puisque c'est ce qui fait aussi que les élèves s'investissent dans leur travail. Globalement, c'est un moment où on se réunit autour d'une table, enfin en tout cas en cercle dans la classe, où des élèves ont des rôles définis, donc ça peut être un président, celui qui distribue la parole, il y a un secrétaire, etc. Et chaque élève, après, peut... s'inscrire, en tout cas, à l'ordre du jour de cette réunion.
Ah, donc il faut s'inscrire en amont, quand même.
Voilà. Oui, ça permet aussi d'avoir une distance aussi avec ce qu'on veut dire. C'est souvent ce qui est plus facile, après, à régler, quoi.
Et ça se passe tous les combien, à peu près, ces réunions ?
Alors, pour que ça fonctionne, c'est vrai que toutes les semaines, c'est l'idéal.
Toujours pour continuer sur la réunion de coopérative, au niveau des plus petits, on partage le temps entre un moment de retour sur le travail de la classe, les activités qui ont plus plu et pourquoi, celles qui ont le moins plu et pourquoi. Ça permet au maître de se rendre compte de comment fonctionne la classe au niveau du travail et de rebondir dessus. Il y a un temps de gestion des conflits, justement, une fois par semaine, ça permet de différer certains conflits qui peuvent attendre et de les régler à ce moment-là. Dans notre école, toutes les classes font la réunion de coopérative au même moment. C'est un horaire donné dans la semaine, donc on peut faire des passerelles d'une classe à l'autre, aller questionner d'autres enfants dans d'autres classes. Les réunions de délégués, Emmanuel en a parlé un peu, c'est un peu différent, c'est deux ou trois élèves de chaque classe qui rapportent dans une réunion où il n'y a que des délégués de chaque classe les problèmes de la vie collective qu'on doit discuter ensemble. Le dernier problème, par exemple, dans notre école, les petits qui jouaient au bac à sable derrière les cages de foot se plaignaient qu'ils étaient embêtés tout le temps par les ballons. On a trouvé une solution en tendant un filet qui protège, et c'est une solution qui émanait au départ d'enfants de CM2.
Ah, ce sont les enfants qui ont trouvé l'idée, alors même que c'était eux qui embêtaient ces petits-là.
Voilà, Et c'est quelque chose d'assez facile à faire finalement, et ça donne de la valeur à leur proposition, puisqu'on peut les mettre en œuvre et assez facilement.
Et du coup, ces mêmes enfants, ils auront peut-être plus à cœur le désir de ne pas aller embêter les petits, puisque c'est eux qui auront trouvé l'idée, plutôt que si on leur avait imposé du dessus, en les menaçant peut-être de punition, ou bien de sanctions, etc.
Tout à fait.
Est-ce que vous auriez d'autres exemples de ce qui pourrait se passer pour... dans une école pour œuvrer à cette vie collective tout en ayant moyen de s'épanouir soi-même.
Je pense aussi à, quand on travaille ensemble dans la classe, il y a tout ce qui est l'entraide entre les élèves, les systèmes de tutorat où un élève peut aider un autre élève. Et c'est vrai que tout ça, ça aide aussi à se développer soi, mais aussi à... au mieux vivre ensemble, puisque en fait quand on met en place des projets coopératifs dans une classe, non seulement les élèves sont porteurs de ce projet, mais il y a aussi tout ce qui se passe entre eux qui fait que ça améliore quand même ce vivre ensemble dont on parle tant et dont les enfants parlent tant aussi au début de l'émission.
Et ce tutorat, il se manifeste comment concrètement? Parce qu'un élève qui veut expliquer à un copain, peut-être il peut lui donner la réponse.
Alors, c'est tout. Voilà, le tutorat, justement, ce n'est pas donner la réponse, c'est aussi c'est savoir aider l'autre à trouver la réponse. Donc, c'est aussi toute la difficulté est là pour celui qui aide son camarade. Mais c'est aussi des choses qui se mettent en place progressivement et qui fonctionnent très très bien.
Oui, c'est un travail aussi finalement d'apprendre à vivre avec les autres, parce que tutorer quelqu'un, c'est pas une donnée d'avance.
Non, mais c'est d'ailleurs le rôle le plus dur dans le tutorat, c'est celui qui aide l'autre. Voilà. Après, parler d'autres choses...
Les métiers, par exemple. Moi, j'ai vraiment une question au sujet des responsabilités dont parlent beaucoup les enfants. À quoi correspond-il?
Ça peut être celui qui efface le tableau, donc des choses très pratiques, celui qui écrit la date le matin, mais ça peut aussi être celui qui... Tout à l'heure, on parlait qui distribue la parole au moment de la réunion de copé, les rôles de secrétaire...
Celui qui distribue la colle, celui qui range le matériel de sport, celui qui éteint la lumière quand tout le monde sort...
C'est tout ce qui permet de mieux répartir les tâches.
Et surtout, les responsabilités, elles sont tournantes.
Oui, c'est ça. Et puis j'imagine qu'il y a un certain degré de responsabilité selon les tâches à effectuer. Donc comment est-ce qu'on peut dire tel enfant sera capable de répondre de cette responsabilité-là, alors même que peut-être il n'a pas montré un comportement qui permettrait d'avoir confiance en lui, ou comment faire?
C'est très simple pour moi. Pour le maître, c'est il faut qu'il ait confiance en les capacités de tous les enfants.
Tous.
C'est pour moi un postulat de départ, considérer qu'ils sont tous capables de s'approprier une tâche, alors à leur mesure bien sûr. Je parlais moi d'exemple, j'ai une classe de CP cette année, c'est plutôt pour des CP. On peut imaginer que des CM accèdent à des responsabilités d'un niveau plus élevé, mais il faut être persuadé, sans avoir à se forcer bien sûr, qu'ils sont tous capables de faire des choses qui à un moment donné les dépassent un peu, puisque je sais pas moi, arroser les plantes sans mettre trop d'eau, pour certains c'est pas facile, je parle toujours des petits CP, parce qu'ils auront tendance à trop en mettre. S'ils le font à deux, ils s'épaulent, et puis on a aussi, ça j'allais oublier, le droit de se tromper. Oui, l'erreur est possible.
Et aussi bien dans les apprentissages scolaires, bien
exactement,
entendu.
Exactement.
Donc, ils sont tous capables d'y arriver, mais effectivement, l'erreur est possible et ils vont tous y arriver d'une manière différente.
Et ça demande cette envie d'apprendre qui rayonnera. Il faudra que les parents soient dans le bain, il faudra que les enseignants soient dans le bain, mais que surtout l'enfant ait envie d'apprendre et qu'il se sente, porté par le groupe. Et puis... porté par son envie et qu'il ait l'envie d'apprendre.
Alors justement, on rejoint bien votre mot, ce mot que vous employez régulièrement, qui est le mot de coopération. L'école, finalement, c'est un lien, un tissage entre des enfants, des parents, des adultes, des regards qui se croisent pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Et bien voilà, je crois que la sonnerie a retenti et que l'heure est là de sortir de l'école avec toutes ces belles idées-là.
En sortant de l'école, nous avons rencontré Un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière, et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture. Et en bateau à voile.
Comme elle est jolie, cette poésie de Jacques Prévert chantée par Yves Montand. Moi, je dis que si l'école, c'est du printemps, eh bien, moi, je veux bien y retourner. Tiens, d'ailleurs, on va y aller. Plongeons-nous dans la formidable école casse-tête d'après le docteur Tseuss. Je vis à Cascouville et tous mes amis aussi. Nous allons à l'école Casse-Tête et c'est super. Notre école est au coin de la rue Casse-Noisette et de la rue Casse-Pied. Elle ressemble à n'importe quelle école, mais je crois qu'elle est différente. Je suis sûre qu'on y apprend plein de choses qu'on n'apprend pas dans les autres écoles. Nos professeurs sont remarquables. Ce sont eux qui ont élaboré le programme. Mademoiselle Pompon nous apprend à écouter. Mademoiselle Potiron nous apprend à sentir, Mademoiselle Chanchon nous apprend à rire et Mademoiselle Folichon nous apprend à hurler. Mademoiselle Ficelle nous apprend à faire des nœuds avec des écharpes ou avec des nouilles et à distinguer un chrysanthème d'un caniche nain. Mademoiselle Varicelle nous apprend les mille façons de poivrer un pigeon et de mettre une selle sur un lézard ou sur un léopard. Mademoiselle Fofolle est ma maîtresse. Elle sautille comme une puce. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle nous apprend, mais je suis content que ce soit elle qui nous l'apprenne. Regardez, regardez, gazouille-t-elle, je vais vous montrer comment distinguer un cactus d'une vache, et après je vous expliquerai pourquoi un hippopotame ne peut pas voler. Elle apprend même aux grenouilles à danser et aux cochons à porter des caleçons. Un jour, elle a appris à chanter à un canard. Mademoiselle Fofolle enseigne tout. De tous les professeurs de notre école, c'est Mademoiselle Fofolle que je préfère. Nos professeurs sont tous différents, mais elle, elle est encore plus différente. Le directeur s'appelle Monsieur Ronchon. C'est l'homme le plus triste que nous connaissons. Il marmonne. Est-ce qu'ils apprennent ceci et cela, et aussi ceci et cela, et aussi ceci et cela ? Il est si anxieux que sa figure est ridée comme un vieux pruneau. Il casse beaucoup de mines de crayon en appuyant trop fort et tous les chiens aboient quand il broie du noir dans la cour. Nous pensons qu'il porte de faux sourcils. En fait, on en est presque sûr. On a entendu dire que la nuit, il les enlevait pour dormir. Mais ça, je crois qu'on ne le saura jamais. mais nous savons qu'il aime beaucoup Mademoiselle Faux-Folle. Il la traite comme une reine. Il est toujours là pour la regarder quand elle saute sur son trampoline. Il y a beaucoup d'autres personnes qui font marcher notre école. Ils sont tous formidables, je les adore. Notre infirmière, Mademoiselle Landouillette, sait toujours quoi faire quand on attrape un petit rhume ou la grippe. L'autre fois, j'avais une écharde, alors elle m'a bandée de la tête aux doigts de pied. Monsieur Piston, notre gardien, a construit une machine, la super vroom vroom qui fait tout. Elle nettoie l'école tout entière. Notre professeur de musique, Monsieur Renard, fabrique des cornemuses avec des pailles et des chaussettes. Notre professeur d'art, Monsieur l'Abeille, peint des tableaux suspendus par les genoux. En classe de science, avec Monsieur Cabot, nous apprenons à fabriquer des rats robots. En gymnastique, nous regardons Monsieur Costaud porter des éléphants à bout de bras. Mademoiselle Dingo, notre bibliothécaire, se cache derrière les étagères et quand nous lisons à voix basse, elle se met à hurler « Plus fort !» Nous avons trois cuisiniers, les frères Macmachouille, qui préparent gaiement notre déjeuner. Ils nous font des saucisses, des haricots, des frites et aussi des trucs qu'on ne reconnaît pas. Quand ils cuisinent, ils chantent une chanson, ni trop courte ni trop longue. Rôtir et griller, et hacher et couper, faire à manger, oh c'est si beau! Nous mangeons leur mixture en racontant des blagues et en faisant les fous. Lorsque Monsieur Ronchon arriva et se mit à hurler. Écoutez les filles et les garçons! Il commença à faire des histoires et à s'agiter, à se gratter et à marmonner, à éternuer et à tousser. Il se cogna la tête si fort que nous avons cru que ses sourcils allaient s'envoler. Il se tordit les mains, il se racla la gorge, il versa une petite larme, puis il sanglota. « J'ai quelque chose à vous annoncer, et c'est pour ça que je suis ici. Toutes les écoles à des kilomètres et des kilomètres à la ronde doivent passer un examen spécial pour voir qui apprend ceci et cela et ceci et cela, pour savoir quelle est la meilleure école. » Si notre école ne le réussit pas, elle sera démolie et vous serez obligés d'aller dans la triste école de Morneville. Pas Morneville, avons-nous crié. Et nous avons frissonné rien qu'en disant ce nom. Parce qu'à Morneville, tout le monde fait tout comme tout le monde. Morneville, c'est misérable. Ils portent tous le même costume, ils chantent une seule chanson. Ils ne dansent jamais. Ils marchent en rang un par un. Ils n'ont pas de cours de récréation et ils n'ont pas de parc. Leurs repas n'ont aucun goût et leurs chiens ont peur d'aboyer. Mademoiselle Faux-Folle se leva. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle. Vous avez appris tout ce dont vous avez besoin pour passer cet examen. Et plus encore, je suis sûre que vous allez réussir. Vous avez appris que la terre était ronde, que le rouge et le blanc faisaient du rose. Et vous avez appris une chose bien plus importante encore. Vous avez appris à penser. J'espère que vous avez raison, soupira Monsieur Ronchon. Et il versa une autre larme. L'examen aura lieu dans 10 minutes, et vous le passez ici même. Nous étions sous le choc, abasourdis. Oh non, a-t-on gémi, oh non! Nous étions encore plus malheureux que ce malheureux monsieur Ronchon. Mais juste après, il y a eu la distribution des questionnaires. Youpi, a-t-on hurlé, youpi! Car nous savions tous que nous savions tout pour répondre aux questions. Il y avait des questions sur les nouilles, sur les caniches, les grenouilles et les hurlements, sur l'écoute et le rire, les chrysanthèmes et l'odorat. Il y avait des questions sur d'autres choses que nous n'avions jamais vues, jamais entendues, mais d'une façon ou d'une autre, nous avons répondu en savourant chaque mot. Une semaine après les examens, Monsieur Ronchon semblait tout guilleret. Nous ne l'avions jamais vu sourire auparavant, mais là, il souriait, je vous jure, il souriait. Très vite, il commença à ricaner, puis il se mit à ricaner de plus en plus. Et puis, l'incroyable se produisit. Monsieur Ronchon rit. « Vous avez sauvé votre école! Vous avez sauvé votre école !» Et il hurlait de rire. « Nous avons obtenu le meilleur résultat !» Et il l'écrivit au tableau. Mademoiselle Faux-Folle fit des galipettes jusqu'à ce qu'elle devienne rouge cerise. Elle sauta sur Monsieur Ronchon et l'embrassa sur la tête. Hurrah ! Hurrah ! Cria-t-elle. Je suis si fière que je n'arrive pas à parler. Alors elle fit d'autres galipettes et plein de bises sur les joues de Monsieur Ronchon. Tout ça, monsieur Ronchon. Vous méritez tous une récompense. Je vous annonce que je vous donne des vacances. Et c'est maintenant qu'elles commencent. Vous avez été splendide. Ce jour restera jamais un jour mémorable pour notre école. De plus, je vous promets que jamais plus je ne froncerai les sourcils. Je sais maintenant que nous n'irons jamais à Morneville, la triste ville. Et voilà, c'était la formidable école casse-tête par Jacques Prelutsky et Lane Smith aux éditions Seuil Jeunesse. Eh bien, sur ces pétillantes paroles, je vous souhaite à tous et toutes, chères petites oreilles buissonnières, d'avoir une école aussi formidable que celle de l'école casse-tête. Et chères grandes oreilles buissonnières, d'œuvrer à la magie d'une école pétrie d'imagination pour toujours plus d'humanité, de solidarité, de liberté et de fraternité. Voilà, c'était Emmanuel Pain et Pierre Lacroix, nos invités buissonniers. Sylver Petit au montage son, Raphaël Terribilet à la console et moi-même, Donatienne Rank. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Mmh.